L'invité régional avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
Nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce qui se vit loin, très loin de nos frontières, en Birmanie. Père Cyril Delors, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous avez été envoyé en Birmanie par les MEP, les Missions étrangères de Paris, en octobre 2017.
C'est ça.
Alors après 3 ans entre l'apprentissage de la langue et de la culture, le début de la mission à Kalemio, la Covid est arrivée, confinement à l'évêché, et puis on va très très vite, hein, arrive le 1er février, où là, le pouvoir civil a été renversé par la junte militaire, et cette date n'avait pas été choisie par hasard.
Les élections qui avaient eu lieu en novembre avaient porté le parti d'Aung San Suu Kyi, avec une victoire à 90%, enfin vraiment c'était un raz-de-marée démocratique. Et le 1er février était normalement le jour où le nouveau gouvernement devait siéger à Naypyidaw, la capitale. Et le matin du jour où il devait siéger, il y a eu un blackout dans tout le pays, plus de téléphone, plus d'internet. Et pendant 14 heures à peu près, le temps qu'il a fallu pour les militaires d'emprisonner tous ceux qu'ils avaient besoin d'emprisonner et de prendre le contrôle des communications.
On va juste revenir sur celle qui aurait dû prendre le pouvoir, Aung San Suu Kyi. Elle est la fille du général qui avait contribué à libérer la Birmanie.
Exactement, qui s'était battue, surtout contre les Anglais, avec l'aide des Japonais, donc à la fin de la guerre. En 1948, il y a eu l'indépendance du pays, mais quelques semaines avant, le général Aung San a été assassiné par une faction opposée, birmane aussi. Le général Aung San est resté vraiment l'icône de la libération de la Birmanie, et quand sa fille Aung San Suu Kyi est revenue en 88, elle est entrée un peu malgré elle au début en politique, et en fait il y a eu des élections et je crois qu'elle a gagné aussi. Mais les généraux, la junte n'ont pas apprécié et elle a été mise en résidence surveillée pendant une quinzaine d'années, même un peu plus. Là où elle a reçu son prix Nobel de la paix.
Jusqu'en 2010, c'est la junte militaire qui est au pouvoir.
Oui, encore un peu après. Ouais. Elle est libérée, mais sans entrer encore officiellement en politique. Elle entre officiellement vraiment en politique, élue par la population en 2015. Et après son premier mandat, où elle a fait ce qu'elle pouvait, parce qu'évidemment les militaires n'ont pas voulu tout abandonner, et ils gardaient 30% des sièges du Parlement, ce qui fait qu'ils pouvaient mettre leur veto sur ce qu'ils voulaient. Et ils gardent des ministères régaliens très importants, et ils gardent le contrôle sur des régions, comme par exemple l'État Rakhine, où vivent les Rohingyas, et d'autres, hein, il n'y a pas que les Rohingyas. Et donc les militaires gardent le contrôle sur ça, et en fait c'est une junte, mais c'est aussi des... Ce sont des militaires qui ont énormément d'intérêt dans le pétrole, dans le jade, et donc enfin, ce sont aussi des businessmen.
On dit qu'effectivement Total finance beaucoup.
Total est dans une situation compliquée. En fait.
Oui. En fait, la Birmanie, c'est un pays riche en ressources naturelles.
C'est un pays riche, mais une population très pauvre, une des plus pauvres au monde. Mais le pays en lui-même est riche en hydrocarbures, en diamants, en tech. Le tech que les Chinois affectionnent particulièrement, et des forêts entières ont été décimées pour envoyer le bois aux Chinois. Puis il y a aussi tout le trafic de drogue dans le triangle d'or, au confluent avec le Laos et la Thaïlande, et la Chine aussi. Et donc c'est un pays riche, mais qui ne profite qu'à certains.
Pour revenir donc à 1er février, blackout, la junte militaire reprend le pouvoir. Concrètement, ça signifie donc beaucoup d'arrestations.
On est quasiment à 4000 arrestations. Et après une ou deux semaines, je crois, ils ont même libéré plusieurs milliers de prisonniers de droit commun qu'ils ont enrôlés dans l'armée après. C'est des soldats qui avaient le droit de faire un petit peu ce qu'ils voulaient pour terroriser la population. Dans les premières semaines, là, il y a eu un nombre incroyable d'exactions.
Aujourd'hui, Père Cyril, on peut dire que c'est un état de guerre civile.
Je pense qu'on peut le
en
dire
Birmanie,
maintenant.
Oui.
Il y a eu vraiment pendant 2 mois l'espoir de la population qu'il y ait une intervention de l'ONU ou de l'ASEAN, enfin quelque chose soit décidé. Et pendant 2 mois, parce que ça a commencé avec des manifestations, des grosses manifestations, ce sont les médecins qui ont initié ce mouvement, et après ça a pris une ampleur assez incroyable. Et pendant 2 mois, en fait, ils ont vraiment resté déterminés à être pacifiques. Au bout d'un moment, quand ils ont compris qu'ils n'auraient aucune aide de la communauté internationale, parce qu'évidemment derrière, ce n'est pas qu'un conflit interne, c'est un conflit, il y a la Chine, la Russie, les États-Unis, tout le monde est un peu embusqué autour. Et donc la population, après un moment, quand elle a compris qu'elle n'aurait pas d'aide, ils commençaient à prendre les armes avec ce qu'ils avaient. En fait, là où j'habitais, dans la ville de Kalemio, C'est une des premiers endroits où en fait les jeunes, cette fois-ci, ont mis des barricades et ont pris des petits fusils avec lesquels ils tuent des oiseaux, enfin vraiment des carabines à plomb ou même des lance-pierres. Et au bout de 2 semaines, 500 militaires et policiers sont descendus dans la ville de Calemio. Ils sont allés au lance-roquettes et enfin au bazooka. Nous, on a entendu ça, on s'est fait réveiller par les coups de feu et par les bombes, en fait, pour vraiment montrer qu'il ne fallait pas... Il ne fallait pas essayer, mais c'était trop tard parce qu'en fait, les Chin, donc l'État dans lequel je suis, à Calemio, les Chin, minorité ethnique, ont un petit peu montré la voie parce que normalement, ce ne sont pas des guerriers. Ouais. Alors que dans d'autres États de Birmanie, comme chez les Karen, on est en guerre civile depuis 50 ans, en fait. Mais chez les Chin, on ne l'est pas. Et donc là, c'était nouveau, en fait. Et je crois que ça a donné un peu une idée ou courage. Maintenant, il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes parce qu'on n'aura pas d'aide de l'extérieur. Et donc là, maintenant, comme vous disiez, on est réellement, je pense, en guerre civile, avec une église qui a été bombardée il y a 2 jours. Des fidèles, c'était peut-être pas des catholiques, mais c'était réfugiés dans l'église. Ils ont bombardé l'église, il y a eu 4 morts. Donc maintenant, je crois qu'il n'y a plus aucune retenue de la part de la junte.
Père Cyril, justement, vous parlez de cette église. Quelle est la situation des chrétiens?
Dans les 50 ans où la Birmanie a été coupée du monde, les chrétiens n'ont pas été persécutés pour leur foi. Ce n'est pas un régime communiste, c'est plutôt un régime nationaliste, militaire, un peu socialiste, mais pas anti-chrétien. Ce qui s'est passé depuis le 1er février et qui est unique dans l'histoire du pays, c'est qu'il y a pour l'instant une union de toutes les religions, de toutes les minorités ethniques contre la junte militaire. Et ça, c'est vraiment... Avant, par exemple, la junte était soutenue par certains partis, par les bouddhistes et puis par la majorité bamar, les birmans en fait. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc maintenant, il y a une espèce d'unité qui s'est créée contre la junte. Je ne sais pas si ça durera, parce qu'évidemment, les militaires vont faire tout pour diviser, pour mieux régner. Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a une unité contre eux.
Vous, Père Cyril Delors, vous êtes rentré en fait en France depuis...
Depuis 2 semaines.
Comment est-ce que vous avez vécu, vous, les dernières semaines là-bas?
On avait déjà le confinement depuis mars de l'année dernière. Alors moi, d'abord dans le petit village, puis... Ensuite à Calemio, donc j'étais confiné, vraiment je ne pouvais pas sortir, donc juste peut-être pour aller célébrer la messe dans un couvent ou quelque chose comme ça, ou faire des courses, mais on n'avait pas le droit de sortir. Et depuis le coup d'État, encore plus, on est vraiment assigné à résidence, et d'ailleurs l'immigration était venue 2 semaines avant le coup d'État pour vérifier qu'on soit bien là. Peut-être qu'il y a une corrélation, mais bon. Et donc on est resté, et je pense que c'est ça qui était un peu difficile, c'est d'être confiné sans avoir de mission particulière. Les dernières semaines étaient particulièrement difficiles puisqu'on se sentait un petit peu...
Impuissant, en fait.
Impuissant, exactement. Ouais. Alors, évidemment, par la prière et avec la messe célébrée, ça, c'est fondamental. Mais quand on est missionnaire, on a envie de plus...
Oui, quand on est jeune.
Oui, enfin, voilà. Le moment était venu de notre mission, en fait.
Parce qu'en plus, on parle des conditions de vie compliquées là, en guerre civile, mais forcément, il y a des impacts économiques aussi. Ça veut dire que les gens vont commencer à avoir du mal à se nourrir.
C'est terrible. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et là, en 2 mois, 4 mois, on va dire... ils ont mis à néant les 10 dernières années d'ouverture et c'est une catastrophe. Là, je pense que l'année prochaine, plus de la moitié de la population sera déjà sous le seuil de pauvreté. Quand j'ai quitté Rangoon il y a 2 semaines et demie, je voyais des longues queues devant les distributeurs de billets, en fait, parce que les banques, ne voulant pas faire donner tout leur argent, ne donnent qu'un petit peu par semaine. Et donc, il y a des heures et des heures de queue devant les distributeurs. Et ça n'y aura pas longtemps. C'est-à-dire que le pays est déjà en train de s'écrouler. Il y a énormément d'expatriés qui sont partis, des grandes entreprises qui quittent le pays parce que là, on est dans l'incertitude totale. C'est terrible économiquement parce que dans la campagne, ils arrivent encore à se débrouiller parce que c'est une vie simple. Quoique, il faut toujours du riz, en fait. Le riz étant la base, là, il y a déjà des pénuries et c'est... Là, le pays où il repart des années et des années en arrière.
Père Cyril Delors, là, vous êtes en congé pour quelques temps. Et vous ne savez pas pour combien de temps, finalement. Vous ne savez pas quelles sont les perspectives.
Alors, normalement, pour 3 mois. Mais avant de partir, après Pâques, je devais aller dans les montagnes Chin en tant que vicaire. L'évêque a changé d'avis parce que dans les montagnes, ça devenait trop dangereux. Il avait peur que je sois kidnappé contre rançon, puisque les militaires ont besoin d'argent, et c'est quelque chose qui est tout à fait vraisemblable. Et donc il a dit, on va te donner une autre mission. Donc
oui, puis on a déjà eu une sœur de notre diocèse qui a été kidnappée. Donc,
exactement. Et donc, il m'a donné une autre mission qui est vicaire à la cathédrale de Calemio. Mais il m'a dit, avant, prends ton congé. Et vu l'évolution de la situation, il n'est pas garanti que je puisse rentrer dès septembre dans un pays en guerre civile et avec le Covid, puisqu'on est en plus entre l'Inde et la Thaïlande, où il y a énormément de cas. Donc, bon, je suis là, heureux d'être là. J'espère retourner au pays en septembre, mais pour l'instant, c'est... Moi, je n'ai pas pu acheter de billets de retour.
Je vais vous remercier, Père Cyril Delors, de nous permettre d'attirer l'attention aussi sur ce pays, la Birmanie. On a beaucoup parlé dans les médias les tout premiers jours, et puis là, on oublie un petit peu, alors que finalement, rien ne s'arrange et que ça empire plutôt.
Je vous remercie de m'avoir invité pour en parler.
Je vous en prie, et profitez bien de votre séjour en France.
Merci beaucoup, Isabelle.